l'actualité et ce matin focus sur l'Ukraine et sur la Russie. C'est avec vous Aurélie Didier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable éditoriale Monde de la rédaction. Alors, dernière actualité en date, la Russie a annoncé hier une trêve unilatérale pour le Noël orthodoxe. La Russie qui mène, on le sait, une guerre de haute intensité en Ukraine depuis le 24 février dernier. La durée, l'issue de cette guerre sont bien incertaines, d'autant qu'on apprend de nouvelles livraisons d'armes occidentales côté ukrainien, oui. Et que côté russe, on annonce un renforcement militaire. Alors aujourd'hui, Aurélie, on va tenter de prendre un peu de hauteur en se replongeant dans les racines historiques de ce conflit.
Oui, et comment l'histoire peut éclairer le futur? Car l'Ukraine et la Russie, de par leur proximité géographique, ont des liens importants, mais aujourd'hui avec des visions opposées de part et d'autre sur ce passé. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de justifier la guerre, mais bien d'apporter des éclairages historiques.
Et votre invitée pour en parler ce matin, c'est Nina Bashkatov. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université de Liège, spécialiste de la Russie. Une première question, Nina Bashkatov. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire est, dans ce contexte de guerre, utilisée comme un instrument de propagande côté russe et peut-être aussi côté ukrainien d'ailleurs?
Oui, des deux côtés, parce qu'on a assisté de deux côtés à une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ment vraiment, mais il n'y a personne qui dit toute la vérité. Et parmi les événements historiques, mais chacun choisit ce qui arrange sa position actuelle. Donc oui, il y a une instrumentalisation, je dirais, de l'histoire des deux côtés.
Et on assiste à de vraies batailles historiques, hein, et ça commence avec une date fondatrice au IXe siècle, en 1882, c'est la création de la Rousse par les Vikings, premier état rassemblant des peuples slaves. Donc cet état va de Kiev à Moscou, et on voit aujourd'hui, côté russe et ukrainien, de vraies discussions historiques, des visions opposées, Nina Bashkatov.
Oui, la question c'est, la Rousse, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour les Ukrainiens, ça veut dire que finalement, tout est parti de Kiev, ce qui est une façon de voir, mais quand même, qui demande un peu d'imagination, puisque les Varegs n'étaient pas slaves, et qu'on ne parlait pas d'Ukraine à l'époque, bien entendu. Et les Russes, ils voient l'inverse, c'est-à-dire le fait que, à cause de déplacements de principautés au cours du Moyen-Âge, comme on en a connu chez nous, finalement, ça reste leur origine, bien que ce soit dans l'Ukraine actuelle. Donc vous voyez que vous avez une compétition sur la fondation de ce qu'on pourrait appeler la Russie-Ukraine ou appeler ça comme vous voulez, mais qui est déjà une fondation mythique. Parce qu'en fait, il y a les sources historiques, les vraies, sont quand même relativement disparates.
Et est-ce que les deux présidents ukrainiens et russes utilisent justement la Rousse aujourd'hui dans leur discours?
De moins en moins, je trouve. Ça a été beaucoup plus prenant il y a une dizaine d'années ou au début de l'indépendance de l'Ukraine. Maintenant, je crois qu'il y a une façon de réécrire autrement pour la simple raison que, avec la guerre notamment, mais déjà auparavant, l'Ukraine s'inscrit dans une orbite occidentale et que c'est cela qui fait la différence avec la Russie.
Alors, ce territoire de la Russe, il disparaît au XIIIe siècle et à partir du XIVe siècle, côté russe, on assiste à la construction d'un véritable empire avec, au XVIIe siècle, Pierre le Grand et au XVIIIe siècle, Catherine II. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps en Ukraine et comment est-ce qu'on voit ça aujourd'hui dans ce contexte de guerre?
Mais je vais probablement horrifier certaines personnes, mais il n'y avait pas d'Ukraine. Il y avait des Ukrainiens, il n'y avait pas d'Ukraine. C'est un peu la différence avec la Pologne. Par exemple, en Pologne, même quand il n'y avait plus de Pologne, il y avait un peuple polonais, une nation polonaise très forte. L'Ukraine, c'est un peu l'inverse parce que, pour la simple raison qu'ils étaient dispersés entre différents empires et que c'était la structure quand même de l'époque sur ce qui est maintenant le continent européen. C'était les trois empires, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Et en fait, vous aviez des morceaux de ce qui deviendra plus tard l'Ukraine, qui était éclatée entre ces différents empires, avec des traditions différentes, parfois des langues différentes, des religions différentes, etc.
Avec toute la difficulté pour les Ukrainiens aujourd'hui de se construire cette histoire, ce passé en fait.
Oui, c'est fascinant parce qu'ils sont maintenant au XXIe siècle, dans des circonstances très particulières, et vous avez une reconstruction qui est maintenant quand même parfois tirée par les cheveux. Mais peu importe, je crois que c'est un outil d'union nationale autour de la guerre. Et puis on verra ce qu'ils vont en faire en temps de paix, qui est toujours beaucoup plus difficile. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Ukraine, il n'y a aucune élection qui ait été faite avec des victoires nationales. Ça a toujours été des votes très marqué dans une région, une autre personne dans l'autre, etc. Donc tout le futur est là et je trouve que ça va être fascinant.
Avec des vrais enjeux de construction d'identité.
Oui, tout à fait.
Je vous propose d'avancer au XXe siècle. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Ukraine a eu une période révolutionnaire avec de vrais idéaux d'indépendance déjà entre 1917 et 1921.
Mais ça, c'est la guerre civile dans tout l'Empire russe. Donc, il n'y a rien de particulier à l'Ukraine. Si vous allez chez les Géorgiens, ils vous racontent la même chose en disant, voilà, on a fait un gouvernement qui était indépendant. En fait, même en Russie, vous avez eu la création de régions indépendantes. Donc, ce sont les aléas de la guerre civile qui, maintenant, sont utilisés dans un contexte pour dire à peu près comme s'ils n'avaient jamais été soviétiques, sauf forcés. Mais en fait, il y avait en Ukraine les blancs, les rouges, comme partout. Ils avaient même une spécialité qui était Makhno, qui était une sorte de révolte paysanne qui était opposée aux autres et qui, bien entendu, s'est fait laminer.
Mais est-ce qu'il y avait déjà ce besoin d'identité ukrainienne à ce moment-là, ou est-ce que c'est plutôt une
réalité ? Non, on ne parlait pas d'identité, puisque le... C'est une question quand même très moderne, la question d'identité. Ce qu'il y avait, c'était une opposition, simplement, une opposition idéologique, une opposition politique. Il y avait les Rouges qui voulaient faire la révolution, et il y avait de nombreux Ukrainiens qui y adhéraient. Et puis, vous aviez la contre-révolution qui voulait rétablir tout sauf le pouvoir communiste.
En 1922, c'est un vrai tournant, Nina Bashkatov. La République soviétique d'Ukraine adhère à la toute jeune URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Oui, et entre 1922 et 1921, entre 1922 et 1991, l'Ukraine est donc soviétique, ce qui va bien sûr marquer l'histoire du pays. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur deux éléments marquants, Nina Bashkatov. D'abord, la répression sous Staline, très dure, et surtout la famine, Holodomor. Je vous propose d'abord d'écouter le président ukrainien à ce sujet lors d'une commémoration.
Holodomor, qui a été reconnu comme un génocide contre notre peuple par le régime totalitaire stalinien, a fait des victimes. Des millions d'Ukrainiens, nous ne pourrons jamais pardonner cela.
Bashkatov, deux visions totalement opposées sur Holodomor aujourd'hui entre Ukraine et Russie.
Mais entre historiens aussi. Je trouve que Zelensky a très bien utilisé cette question de la grande famine qui avait été en fait remise à l'honneur, si je puis dire, au moment de Maidan. Et après, sinon, ça avait été essentiellement promu, si je puis dire, dans la diaspora nord-américaine. Ce n'était pas une question tellement à l'intérieur de l'Ukraine. Mais en fait, la famine, c'est le résultat de la politique de Staline dans toutes les régions rurales de toute l'Union soviétique. Il se fait qu'ils ont commencé en Russie, d'ailleurs, et je connais de nombreux villages où on disait d'ailleurs qu'il y a plus d'espoir pour l'agriculture russe parce que à cause de la collectivisation et des mentalités que ça avait entraîné. Donc ça a commencé forcément en Russie puisque c'était plus proche du pouvoir. C'est allé en Ukraine avec la différence qu'en Ukraine on bloquait les villages donc pour que les gens ne puissent pas sortir, alors qu'en Russie on a utilisé énormément la déportation. Donc vous avez des gens des villages entiers qui étaient déportés, considérés comme koulak, etc. Et vous avez eu une famine dans une partie du Kazakhstan aussi. Donc cette tendance, moi je suis tout à fait très méfiante parce que c'est vraiment une instrumentalisation de l'histoire comme si c'était la volonté de détruire le peuple ukrainien. En fait, c'était la volonté de détruire une classe sociale. C'était une classe de paysans, qui s'était enrichie au moment de la NEP. Et Staline voulait nourrir les industries puisque sa politique, c'était pas de développer les campagnes, c'était de nourrir les ouvriers et la classe ouvrière qui s'installait dans les villes. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage que tout à coup ce soit sacralisé. Il y a suffisamment de raisons historiques pour trouver des vraies raisons sans devoir tordre.
Donc, Holodomor, génocide, pas génocide,
c'est très
polémique. Aujourd'hui, ça a été reconnu comme tel, en tout cas, par le Parlement européen. Et c'est vrai qu'il y a encore de vrais débats sur le sujet. L'autre élément marquant pendant la période soviétique, c'est le nationalisme ukrainien, et qui fait aussi encore polémique aujourd'hui, surtout avec la figure de Stepan Bandera pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi c'est polémique ?
Parce que vous avez l'idée qui est l'idée chez nous aussi, que la victoire a été remportée grâce aux troupes soviétiques. Dans les troupes soviétiques, il y avait des Russes, il y avait des Kirghizes, il y avait des Ukrainiens, il y avait tout ce que vous voulez. Il se fait qu'en Ukraine, parce que en fait l'Union soviétique ne s'est imposée dans toute l'Ukraine que à la faveur de démembrement de la Pologne après le pacte germano-soviétique. Donc c'était très récent. Et
est-ce qu'elle est utilisée aujourd'hui par Vladimir Poutine? Pourquoi?
Parce que c'est facile. Parce qu'en fait, ce n'est pas lié à la révolution, c'est lié à la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Puisque vous avez une partie de l'Ukraine dans l'Ouest qui était tout récemment et qui pour elle était une occupation qui était polonaise, on passait sous domination soviétique. Pour eux, il fallait résister et lutter contre le communisme. Et puis vous aviez dans l'autre partie de l'Ukraine qui était le plus attachée à l'héritage de l'Empire russe et qui était à l'intérieur de l'Union soviétique, vous aviez une autre vision. Et donc vous avez eu une sorte de guerre civile parce que les troupes de Bandera, mais il n'est pas le seul, ont été utilisées par les nazis, ont combattu sous uniforme, ont participé aux exactions, l'arrestation des juifs, etc. Et par exemple, les prisonniers de guerre soviétiques préféraient être gardés par des Allemands que par des Baltes ou des Ukrainiens. Donc c'est une histoire très complexe qui était liée à autre chose, bien entendu, que ce à quoi on l'a réduit aujourd'hui. Et ce qui est choquant, précisément, c'est que nous n'ayons pas fait de remarques, parce qu'on se rappelle, ils nous disent qu'ils ont simplement vu avant nous le danger du communisme. Ceux qui sont allés combattre sur le front de l'Est chez nous, ils n'ont pas été recueillis comme des gens qui avaient vu les difficultés historiques avant les autres.
Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine, en tout cas, utilise la figure de Stepan Bandera pour considérer le pouvoir ukrainien comme néo-nazi. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Vladimir Poutine qui parle de banderistes. On l'écoute, c'était le 25 février, juste après le début de l'invasion de l'Ukraine.
Je fais appel une fois de plus aux militaires des forces armées de l'Ukraine. Ne laissez pas les néo-nazis, les banderistes, utiliser vos enfants, vos femmes et les personnes âgées comme boucliers humains.
Alors, tout autre sujet, l'Ukraine devient indépendante en 91 avec la chute de l'URSS. C'est un pays qui va traverser deux révolutions pro-occidentales, 2004 et 2014. Et dans la foulée de cette révolution, la Russie va annexer la Crimée et des séparatistes pro-russes vont prendre les territoires du Donbass. 24 février 2021, 2022, invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.
Merci beaucoup Aurélie, évidemment à vous Nitin Apashkatov d'avoir été avec nous ce matin pour ce regard finalement sur le passé, hein, le passé qui vient éclairer, on le sent bien, ce conflit qui a lieu en ce moment en Ukraine. Il est